c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale, porte de la Dordogne, à Cresse.
Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Bergerac 95 où vous nous écoutez eh bien chaque lundi à 19h par exemple sur le 95.0 du côté de Bergerac, Cresse ou encore Sainte-Foy-la-Grande. Pendant une heure, eh bien on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités et ça tombe bien, tout de suite voici le sommaire de l'émission.
On est vraiment bien sans
Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire, eh bien, de votre nouvelle émission hebdo de Chute, on écoute la télé. Dans un instant, eh bien, nous allons vous faire découvrir la chanteuse Simone. Elle vient de sortir, eh bien, son premier album éponyme. C'était vendredi dernier. Dans les bacs, eh bien, Simone sera notre invitée exceptionnelle d'ici quelques instants. Et puis, nous aurons le plaisir également, eh bien, de vous proposer une spéciale du téléfilm De l'autre côté de Didier Bivel. Il sera diffusé vendredi sur France 2. À cette occasion, la productrice Myriam Garbi et les comédiens Tiffaine Davy et François-David Cardonnel seront nos invités. Vous l'adorez dans le rôle de Gérald Soriano dans Un si grand soleil, vous allez le découvrir en marailleur. Et bien dans Crime parfait demain soir sur France 3, c'est Christophe Favre qui sera notre invité exceptionnel également. Et puis nous aurons également le plaisir, et bien pour vous, d'avoir aujourd'hui Victor Meutelet, le beau gosse de Grand Hôtel, sera notre invité à l'occasion de la diffusion de la mini-série Le Mensonge qui démarre ce soir sur France 2 aux côtés de Daniel Auteuil. Il nous dira tout. Alors vous voyez, comme d'habitude, hein, le programme est assez chargé. Alors sans plus tarder, on démarre par les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Allez, un point complet sur les audiences de la semaine dernière. Et lundi dernier, c'est L'Amour est dans le Pré qui arrive en tête des audiences avec 3 634 000 téléspectateurs et 16,1% de part de marché, talonné d'assez près par la série Laetitia sur France 2. Et c'est 14,7% de part de marché, c'est 3 410 000 téléspectateurs. Clem terminait sa saison avec 2 906 000 téléspectateurs et 13,1% de part de marché. Petit score pour Secret d'Histoire, 8,8% de part de marché seulement et 1 977 000 téléspectateurs. Et puis mardi, c'est France 3 qui arrive en tête avec Alexandra L, 3 901 000 téléspectateurs, 17,2% de part de marché, talonné là encore une fois de très près par TF1 qui arrive seulement deuxième avec Good Doctor et 3 882 000 téléspectateurs, laissant loin derrière M6 avec Recherche appartement ou maison et c'est 2 508 000 téléspectateurs et 11,5% de part de marché. Et très petit score pour l'émission de Michel Simès, Prenez soin de vous, seulement 8,3% de part de marché et 1 800 000 téléspectateurs. On passe à mercredi, c'est France 2 qui arrive en tête avec Alex Hugo, 4 308 000 téléspectateurs pour 19,5% de part de marché. Loin devant The Resident sur TF1 avec seulement 3 291 000 téléspectateurs et 15,4% du public. Le meilleur pâtissier sur M6 signe un bon retour avec 2 698 000 téléspectateurs et 14,1% de part de marché. Et jeudi, c'est TF1 qui arrive en tête avec la saison 2 de sa série Infidèle. Et on va faire tout de suite un petit bilan aussi des audiences de septembre. À noter que TF1 recule fortement alors que France 2 s'envole grâce au Tour de France. Et oui, porté par le Tour de France, France Télévisions signe une rentrée record en part d'audience depuis 2007. Rendez-vous compte, France 2 réduisant l'écart avec TF1 en recul sur un an comme M6 d'ailleurs, selon le baromètre mensuel publié par Médiamétrie. France 2 donc a ainsi enregistré 16,4% de part d'audience en septembre, en hausse de 2,1 points par rapport à septembre 2019, quand France 3, elle, en a attiré 10,3 avec donc une progression de 1,2 points d'audience. Outre la grande boucle, exceptionnellement programmée en septembre, en raison du contexte sanitaire et regardée au moins une minute par 40 40 millions de téléspectateurs. Selon un communiqué du groupe, les deux chaînes ont ainsi capitalisé sur leur fiction inédite également, ou bien installée, comme ont pu voir et constater les cartons par exemple de la mini-série La Garçonne, ou encore Laetitia, ou encore Candice Renoir. Et TF1 donc, malgré tout, est toujours leader, hein, mais a reculé d'un point sur un an à 18,8% de part de marché au lieu de 19,8%. C'est bien sûr le téléfilm Pourquoi je vis, notamment le biopic sur Grégory Le Marchal qui a sauvé un peu la casse, ou encore le film de Danny Boone avec La Ch'tite Famille et ses 7 millions de téléspectateurs. Koh-Lanta également a sauvé les meubles pour TF1. Malgré tout, l'ensemble du groupe TF1, avec toutes ses chaînes confondues, eh bien affiche 26,3% de part de marché, en rajoutant TMC bien sûr qui continue son succès avec notamment Quotidien. Pour les chaînes info, eh bien c'est BFM TV qui reste leader avec 2,5% de part de marché. LCI, elle, est à la traîne malgré sa nouvelle grille et de forts investissements. C'est donc 1% de part d'audience et seulement plus 0,1%. Et puis c'est France Info également qui progresse avec 0,7% à plus 0,2%. Et puis l'équipe également et Énergie 12 enregistrent chacune un léger recul de 0,1%. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour ce bilan complet des audiences de septembre et en même temps des audiences de la semaine dernière. Et tout de suite, c'est donc Simone qui arrive. Découverte musicale dans Chute, on écoute la télé. C'est parti.
La découverte musicale. Chute, on écoute la télé.
Et même si tout ira moins vite, je m'en fiche, l'histoire est écrite. J'apprends à donner simplement, pas plus, pas moins, différemment. Je marche lentement à mon rythme, dans ma chaussure une pépite. Plus de cailloux mais un diamant, tout près de moi depuis longtemps. Il parle, tout est fait pour te plaire. Moi j'y crois.
Allez, découverte musicale aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. On est très heureuse eh bien, de vous la faire découvrir. Elle s'appelle Simone. Son album est sorti vendredi dans les bacs. Et justement, elle est avec nous. Bonjour Simone.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Chute en écoute la télé. Je crois pas me tromper beaucoup en disant que tout a démarré quand même avec Destination Eurovision, vous concernant, qu'on vous a fait découvrir au grand public et que tout s'est enchaîné très vite avec ce premier album qui est sorti vendredi.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est grâce à l'émission Destination Eurovision qu'on a été un peu amené à être un peu plus exposé. Et effectivement, ça nous a donné une visibilité un petit peu plus grande que celle qu'on avait avant, et donc beaucoup d'énergie pour écrire cet album.
Alors cependant, même si le premier album est sorti vendredi, il y a un moment que oui. Vous chantez quand même, Simone.
Oui, oui, il y a un moment que je me suis mise à faire de la musique. Ça fait à peu près 5 ans, vraiment.
Et ça a commencé au piano ?
Ça a commencé, c'était des cours de musique. Donc oui, c'était travailler la voix et travailler essentiellement la voix. Et puis petit à petit, je me suis mise à essayer de comprendre comment fonctionnait un piano pour pouvoir apprendre la musique à travers cet instrument-là.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter dans la vie ? Qu'est-ce qui vous a poussé ? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic, en quelque sorte ?
Alors le déclic, c'est qu'en fait, je voulais faire du théâtre, je voulais faire du cinéma, donc je prenais des cours de théâtre quand j'étais petite. Et puis un jour, on m'a dit que j'avais une voix qui était un peu particulière, et du coup, j'ai rencontré Fabrice parce que je voulais prendre des cours de musique pour apprendre, comment placer une voix, comment travailler la voix, le chant. Et donc, petit à petit, je me suis mise à faire de la musique avec Fabrice, qui un jour m'a dit, écoute, avec la voix que tu as, on va essayer de faire un projet parce que la musique, je pense que ça peut te faire du bien. Puis tu peux y arriver et puis tu peux faire quelque chose de beau. Donc je lui ai fait confiance et il avait raison.
Et je crois qu'il y a eu quand même des commentaires dithyrambiques de la part de Garou ou d'André Manoukian encore lors de cette aventure de Destination Eurovision. Ça doit être chouette quand même de voir des gens comme ça qui aiment votre travail, qui vous applaudissent tout simplement.
Oui, oui, c'est sûr que ça a été une surprise parce que voilà, ça faisait quelque temps qu'on faisait de la musique et on n'était pas vraiment entendu par beaucoup de monde. Et puis en fait, avoir fait cette émission et puis avoir été aussi bien accueilli, que ce soit par le public que par effectivement les présentateurs, les animateurs, les équipes de France 2, de France Télévisions, enfin les castings, enfin tout le monde a été vraiment hyper emballé par le projet et m'a fait de très beaux compliments. Donc effectivement, c'était assez énorme et je m'en souviendrai toute ma vie.
Oui, j'imagine bien. Alors l'album est sorti vendredi. Comment s'est passée un peu la construction de cet album ? De quelle façon vous y avez participé ? Est-ce que vous avez écrit, composé des morceaux ? Vous êtes fait entourer, collaborer ? Racontez-moi.
Alors il y a 11 morceaux sur l'album. Et sur les 11, il y en a un auquel j'ai participé ni à l'écriture ni à la composition. Et il y en a un autre auquel j'ai pas participé à l'écriture, mais j'ai participé à la composition avec Fabrice Mantegna, donc. Sinon, tous les autres titres, je suis co-auteur et co-compositeur avec Fabrice Mantegna, qui m'a accompagné pour Destination Eurovision et avec qui j'avais co-écrit et co-composé tous les deux le premier single qu'on a sorti. Et on a continué sur ce modèle-là pour tout l'album.
C'est quoi vos influences, Simone ? Vos influences musicales ?
Mes influences musicales, c'est très chanson française.
Ouais.
Donc j'aime beaucoup Barbara, j'aime Michel Berger, j'aime France Gall, j'aime Daniel Balavoine. J'aime Vincent Delerme, un peu plus récent. J'aime tous les artistes qui racontent des histoires en musique.
Oui, c'est un peu le cas avec vos titres à vous aussi. Parce que là, on a écouté Cœur de Pierre. À l'instant, on peut parler un peu de l'histoire de ce morceau ?
Bien sûr, bien sûr. Ce morceau, donc j'ai commencé à écrire les paroles en essayant de me poser des questions sur quel genre de femme j'étais, qui j'étais. Parce qu'en fait, cet album, au moment où il a fallu l'écrire, je me suis énormément repliée sur moi-même pour comprendre ce qu'il fallait que je raconte dedans et ce que j'avais envie de passer comme message. Donc voilà, ça a été un travail, un vrai travail et un voyage intérieur en fait. Et je me suis retrouvée face à l'amour et je me suis retrouvée un petit peu perdue face à l'amour. Et donc j'ai voulu mettre en musique et en mots en fait les questions que je me posais à ce moment-là. Et Cœur de Pierre, c'est un peu l'histoire d'une histoire d'amour, mais à l'envers en fait. Ce serait l'inverse d'une histoire d'amour. C'est une jeune femme qui n'arrive pas à se faire à l'idée qu'on puisse l'aimer. Et voilà, donc c'est un journaliste un jour qui m'a dit ça, il m'a dit « Les cœurs de pierre, on dirait une chanson d'amour, mais à l'envers ». Et j'ai dit « C'est exactement ça ».
Oui, c'est bien, c'est exactement ça, effectivement, comme on vient de l'entendre. Simone, quand on fait de la musique, il y a une chose qu'on aime par-dessus tout quand on est artiste, c'est le défendre sur scène, sa musique. Alors évidemment, en ce moment, c'est très très compliqué, mais est-ce qu'on pourrait espérer vous voir en 2021 sur scène défendre cet album, pourquoi pas jusqu'au Francofolie, par exemple chez nous, à La Rochelle, dans notre région ?
Ah ben j'adorerais, ce serait un grand honneur de participer aux Francofolies. En plus, j'adore La Rochelle, voilà, pour y avoir déjà été. Et j'espère vraiment pouvoir faire de la scène. Après, voilà, je pense que le plus important, c'est de préserver la santé des gens, parce que c'est vraiment compliqué en ce moment et je prendrai aucun risque. Et on écoutera à fond ce qui est possible de faire ou ce qui n'est pas possible de faire. Mais en tout cas, c'est pas l'envie qui me manque d'aller porter ce projet sur scène. Et vraiment, je ferai tout mon possible pour qu'on puisse être sur toutes les scènes possibles où on sera invité en 2021. Et je croise les doigts vraiment pour qu'on puisse se produire sur scène.
Eh bien, ça sera en deux temps tout ça. Voilà, il faut être patient. Et en attendant, on peut déguster cet album qui est sorti donc vendredi. L'album de Simone, alors ça s'écrit S-2-E-M-O-N-E.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce surnom, dans ce nom de scène ? Qu'est-ce qui vous a fait le choisir ?
C'était mon surnom au lycée et ouais. J'aimais beaucoup qu'on m'appelle comme ça. Et quand il a fallu choisir un nom de scène, étant donné que mon prénom c'est Léa, qui était un petit peu commun, je me suis dit pourquoi pas utiliser ce surnom et j'ai préféré mettre deux E à la place du I parce que il y a déjà une très grande Nina Simone qui existe, il y a de grandes Simone qui existent et je trouvais que ça faisait quelque chose d'un peu différent et graphiquement je trouvais ça assez joli donc j'ai choisi ce nom-là.
Eh bien c'est parfait, en tout cas vendredi l'album est sorti, vous pouvez vous le procurer, on va découvrir un deuxième extrait, Simone, qui s'appelle Brin de Folie.
Oui, c'est ça.
C'est un chouette extrait aussi que je vous invite à découvrir, c'est notre découverte musicale de cette semaine, c'était Simone dans Chute en écoute la télé, merci beaucoup Simone, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Brin de folie dans tes yeux, une bougie, tu souris, le rouge du vin sur tes lèvres, me crie je t'aime, me murmure demain, je rêve d'être seul, avoir nos couleurs, les autres nous voient en noir et blanc. contraste infini, sans toi tout est gris. Nuances de ma vie, couleurs inouïes. Rouge, vert ou bleu, rien n'existe de mieux dans mes yeux. Contraste infini, sans toi tout est gris. Nuances de ma vie, couleurs inouïes. Rouge, vert ou bleu, rien n'existe de mieux dans tes yeux. Réglisse de mes cils pour t'envoûter, te charmer, mes taches de rousseur en juillet, meurtre en octobre, à ton grand regret. Je rêve d'être seul, à voir nos couleurs, les autres nous voient en noir et blanc. Contraste infini, sans toi tout est gris. Nuance de ma vie, couleurs inouïes. Rouge, vert ou bleu, rien n'existe de mieux dans mes yeux. Contraste infini, sans toi tout est gris. Nuance de ma vie, couleurs inouïes. Rouge, vert ou bleu, rien n'existe de mieux dans tes yeux. Perle, lilas, vernis sur mes pieds. Tu passes des heures à regarder le neige de ma peau, rosée quand il faut. Fais vibrer ton cœur, fais vibrer nouveau. Je rêve d'être seul, à voir nos couleurs, les autres nouveaux, en noir et blanc. Contraste infini, sans toi tout est gris. Nuance de ma vie, couleurs inouïes. Rouge, vert ou bleu, rien n'existe de mieux dans mes yeux. Contraste infini, sans toi tout est gris. Nuance de ma vie, couleurs inouïes. Rouge, vert ou bleu, rien n'existe de mieux dans tes yeux.
Et dans un instant, Chute, on écoute la télé continue avec François-David Cardonnel, Tiffaine Davio, Myriam Garbi, Christophe Favre qui seront donc nos invités. Alors surtout, vous ne bougez pas, Victor Meutlet également va nous rejoindre dans un instant pour la mini-série Le Mensonge. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Indiscrétion, scoop, scoop, news, tout de suite, l'infomédia.
Allez, de retour dans Chute, on écoute la télé avec l'infomédia de cette semaine et on commence par France 2 qui, à partir du lundi 19 octobre à 18h40 et 19h20, proposera une nouvelle édition des Masters du jeu N'oubliez pas les paroles, un programme animé par Nagui. Et pour la première fois, ce ne sont pas 16 mais 32 maestros qui vont s'affronter pendant plusieurs semaines pour remporter jusqu'à 40 000 euros par jour, un voyage au soleil et le trophée du micro d'argent. Margot, Kevin, Renaud, Hervé, Maureen, les meilleurs maestros de l'histoire de l'émission vont nous impressionner par leur incroyable mémoire et maîtrise de la chanson française. Le lundi 19 octobre débuteront donc les 16e de finale et chaque match se jouera sur deux émissions. Le maestro totalisant le plus de points à l'issue des deux parties accédera donc au tour suivant. Et puis c'est une série de 6 fois 52 minutes qui est actuellement en tournage dans le golfe du Morbihan. Jugé coupable sera programmée sur la chaîne France 3 avec notamment au casting Garance Tonneau, Pierre-Yves Bon, encore Jérôme Anger et Aurélie Vanek. L'histoire de Lola Morand, 22 ans, qui arrive à l'hôtel des Roches Blanches pour un entretien d'embauche. Avec l'espoir de se faire engager comme assistante manager, elle déchante très vite. Il n'y a jamais eu aucun entretien de prévu. C'est le début d'une affaire qui, dans un climat inquiétant de vengeance et de meurtre, va plonger Lola dans un passé dont elle ignorait tout. Une série signée donc Franck Olivier au niveau du scénario et des dialogues. Tournage également pour une nouvelle série J'ai menti qui vient de débuter au Pays Basque et qui aura lieu jusqu'au 15 décembre. C'est Frédéric Berthe qui réalise les 6 fois 52 minutes destinées là aussi à France 3. Au casting on retrouve Camille Lou, Thierry Neuvik, Marilyn Lima ou encore Annelise M. Et puis début de tournage également pour le réalisateur Franck Van Passel qui tourne donc la nouvelle mini-série de 6 fois 52 minutes pour TF1 ce coup-ci intitulée Renaissance, une fiction tournée entre Biarritz et Anvers en Belgique. Au casting, les téléspectateurs retrouvent Claire Keim, Pierre-François Martin Laval, Jessériel Massengo ou encore Brigitte Fossé. Et puis ça y est, c'est décidé, la série politique de Canal+, Baron Noir, n'aura pas de 4e saison, annoncé à Télérama son co-créateur Eric Benzegri et le directeur de la fiction émission de Canal+, Fabrice de la Patelière, lancée en 2016 sur la chaîne cryptée. Le drame porté par Cadmerade s'arrêtera donc à la décision de son co-créateur. Et puis enfin, le festival de Cannes, qui n'a pas pu avoir lieu au printemps en raison de la crise sanitaire, va donc tenir fin octobre une petite édition hors norme, avec la projection de 4 films de la sélection officielle Cannes 2020. Ce mini-festival s'ouvrira au Palais des Festivals avec un triomphe d'Emmanuel Coursol avec Cadmerade en présence de l'équipe du film, et s'achèvera avec les deux Alfred de Bruno Podalydès en présence du réalisateur et de Sandrine Kiberlin.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé, ce soir consacré à la mini-série Le Mensonge qui débarque sur France 2 avec un très beau casting. Daniel Auteuil, Charlie Bruno, celui que vous aimez dans Scène de ménage aussi, Grégoire Bonnet, Catherine Alric, Benjamin Bellecour et alors celui qui est l'étoile montante en ce moment dans la fiction française. Je peux vous le dire, on n'arrête pas de le voir et c'est pas fini. Et il est avec nous, Victor Meutelet. Bonjour Victor.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Victor. Alors, on sort juste de Grand Hôtel, où on a pu te voir effectivement dans cette série, dans le rôle du frère de Juliette Lemonnier, qui est venu évidemment essayer d'éclaircir les circonstances de disparition de sa sœur. Donc voilà, on a vu maintenant la série, on a vu que c'est elle qui était l'instigatrice de tout ça. Mais petit retour en arrière déjà, comment t'as vécu cette aventure Grand Hôtel, Victor ?
C'était génial déjà, j'avais envie de défendre cette histoire-là qui m'a plu dès la lecture du scénario, j'avais envie de tourner avec ce casting-là, avec Harold Bouquet, avec Solène Hébert. Puis voilà, on a été malheureusement stoppé en plein milieu du tournage par le Covid. Mais bon, on a pu finir finalement assez récemment le tournage, en juin-juillet, avec une post-prod qui s'est faite super rapidement pour une diffusion dans la foulée. Donc c'est une belle aventure, très compacte, très intense.
J'imagine, très bien. Alors évidemment, maintenant on sait qui était ce fameux maître chanteur, ce fameux proxénète, qui n'était autre que le personnage de ta sœur. Alors là, franchement, on s'attendait pas du tout à cette fin et surtout à ce coupable. Donc il y a plein de choses qui restent en suspens. Est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée ? Est-ce qu'elle va succomber à la blessure qu'elle s'est faite à la fin ? Voilà, le personnage de Alain-Fabien Delon va-t-il se suicider ? Enfin, il y a plein de choses qui restent en suspens. Donc Victor, est-ce qu'une saison 2 est en préparation ?
Eh ben ça va dépendre. C'est évidemment quelque chose qui est possible. La série espagnole, d'où le Grand Hôtel et l'adaptation française, c'est 3 saisons, je crois. Donc oui, potentiellement c'est possible. Après, c'est pas validé pour l'instant par les décideurs. Donc on en saura plus très vite, je pense.
Eh bien, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses sur cette série également. Alors, on va revenir évidemment à ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque ce soir à 21h05, nous allons pouvoir découvrir la mini-fiction Le Mensonge, une fiction librement inspirée de l'affaire Lacono. Là, tu joues le rôle de Lucas ado.
Oui, c'est ça.
Voilà, Lucas qui est un petit-fils adoré qui un jour, eh bien, est pas bien dans sa peau et qui accuse son grand-père de viol, joué par Daniel Auteuil. Alors déjà, moi, la première question que j'ai envie de te demander, Victor, ça fait quoi de donner, après Carole Bouquet, de donner la réplique à un aussi grand acteur que Daniel Auteuil aussi?
Eh ben, c'est tout aussi impressionnant, peut-être même plus, parce que dans Le Mensonge, j'ai plus de scènes avec Daniel Auteuil que je n'en avais dans Grand Hôtel avec Carole. Et en plus de ça, il y a une autre pression qui vient s'ajouter là, c'est... On défend une vraie histoire, des vrais personnages qui existent vraiment. Ça rajoute une pression. Ouais.
Oui, j'imagine que ça rajoute une pression. Après, il y a un beau casting aussi, Grégoire Bonnet, Charlie Bruno. Comment tu t'es préparé à ce rôle ? Est-ce que tu as rencontré le vrai Lucas, par exemple ?
Ouais, je l'ai rencontré. Le vrai Lucas ne s'appelle pas Lucas, il s'appelle Gabriel. Ça fait partie des quelques adaptations par rapport à la vraie histoire, même si la série reste très fidèle à cette affaire Yacono. Et oui, je l'ai rencontré. Donc moi, pour me préparer, je me suis déjà bien renseigné sur l'affaire, que je connaissais pas, à vrai dire. Je l'ai découverte avec le scénario. Et ensuite, j'ai beaucoup discuté d'abord avec le réalisateur, Vincent Garinck, dont en plus, j'avais vu les films que j'aimais beaucoup. Donc, j'étais vraiment content de faire partie de cette aventure-là. Et ensuite, peu de temps avant mon premier jour de tournage, je crois même que c'était la veille, j'ai rencontré pour la première fois Gabriel, qui a vraiment vécu l'histoire qu'on allait raconter. Donc, c'était pour moi, en tant qu'acteur, un luxe incroyable de pouvoir discuter avec le vrai personnage, lui poser des questions, savoir comment il avait réagi dans telle ou telle situation. Pour moi, c'était génial de bosser dans ces conditions-là.
Comment tu t'es préparé sur le rôle en lisant le livre avant, ou est-ce que tu l'as lu après, ou est-ce que tu l'as pas lu du tout? T'as voulu détacher un peu peut-être aussi et rester dans l'adaptation qui était faite pour la télé?
Alors, j'ai pas lu le livre du grand-père de Christian Yacono. D'abord parce que, justement, c'est écrit par Christian Yacono et que moi j'interprète son petit-fils. Donc moi je voulais pouvoir rester vierge de toute interprétation, je voulais vraiment être dans la tête de Gabriel.
Oui.
Donc je me suis beaucoup documenté, mais que sur les documents liés à Gabriel. C'est-à-dire je lui ai posé des questions beaucoup à lui, et toutes les questions que je posais, c'était directement liées à lui. On m'a beaucoup parlé, par exemple, le rapport des assistantes sociales que les assistantes sociales faisaient de lui suite aux entretiens qu'il avait quand il était jeune. Je posais des questions et c'était toujours lié à ce personnage-là et moi, je voulais me concentrer là-dessus.
T'as senti que Gabriel avait souffert, peut-être que son grand-père avait tout misé sur sa carrière politique, sur tout ça. Est-ce que t'as l'impression vraiment que ce mensonge est dû aussi à la souffrance qu'il a eue de ce manque, peut-être ?
Eh ben, alors déjà le truc c'est que moi je voulais pas être dans le jugement, je voulais pas tout ce qui est le côté judiciaire et tout ça. C'est pas que ça m'intéresse pas, parce que c'est bien sûr intéressant, c'est aussi ce qui fait que la série a un intérêt. Mais je restais concentré sur les motivations de Gabriel, comprendre ce qui peut entraîner un enfant dans un mensonge de cette ampleur-là, et surtout, plus que ça, ce qui peut le maintenir et l'enfermer dans ce mensonge pendant 15 ans. Et donc, en effet, c'est une grosse souffrance derrière tout ça, une souffrance à la base qui amène le mensonge quand il est petit, mais ensuite une souffrance qui le maintient dans ce mensonge, et c'est un cercle vicieux. On ment parce qu'on est en souffrance, et ensuite on est en souffrance parce qu'on reste dans ce mensonge, et c'est ce qui est super intéressant dans ce rôle-là.
On va souligner la prestation aussi d'Alex, hein, Alex Terrier, Thiébaud, qui joue ton rôle enfant, qui est absolument incroyable aussi, hein, tout le casting est vraiment fou.
Ah ouais, il est génial, c'est rare, je trouve, d'avoir des acteurs aussi jeunes qui dégagent autant de choses. On sent vraiment que c'est un gamin intelligent, et il en faut pour jouer un rôle si complexe quand on est si jeune, je pense.
Est-ce que tu as eu une scène particulière qui a été difficile pour toi ? Est-ce que tu as un souvenir en tout cas de ce tournage, ou alors une scène justement qui a tourné peut-être de façon compliquée à mettre en boîte à cause d'un fou rire ou de choses comme ça ? Ça peut arriver aussi, parce que des fois il faut décompresser tournage comme ça.
Ça peut arriver. C'est vrai que d'ailleurs c'est souvent dans les fictions qui ne sont pas censées être drôles, qu'on a des fous rires, parce que justement il faut un petit peu ce sas de décompression là pour être plus détendu. Là en l'occurrence c'était pas un fou rire, c'était, je me rappelle, dès la lecture du scénario, une scène très importante que j'ai à faire au tribunal. J'en dis pas plus parce que ceux qui ne connaissent pas l'affaire et qui veulent la découvrir via la série,
exactement, pas forcément on va pas spoiler
de spoiler. Il y a une scène en particulier que j'appréhendais. C'est un long monologue de plusieurs minutes. Donc, c'est toujours excitant de savoir qu'on va avoir à faire ça, même si c'est troublant. On se demande si on va y arriver, si on va être à la hauteur. Et en l'occurrence, c'était pour moi après un des meilleurs moments de ma toute jeune carrière. C'était un moment génial. Et
un défi.
Jouer un défi, jouer ça avec des acteurs qu'on admire, dont Daniel Auteuil, qui est à côté de nous et qui nous regarde pendant les 5-6 minutes que dure cette scène, ça rajoute une pression énorme. Mais bon, ça permet aussi des fois justement de sortir des trucs qu'on n'imaginait pas. Donc c'est des beaux moments.
Alors deux soirées sont prévues, hein. Bien sûr, ce soir et lundi prochain, on pourra découvrir donc le final. Ouais. C'est en 4 fois 52 minutes. Est-ce que Victor, t'as d'autres projets pour la suite ? Parce que c'est ce que je disais, on n'arrête pas de te voir en ce moment, donc c'est bien, c'est chouette. Il y a beaucoup de choses qui te sourient et voilà, ça permet aussi de voir plein de rôles différents dans lesquels on t'a vu, hein, jusque-là pour l'instant.
Ouais, je suis super content. On a pu parler de Grand Hôtel et du Mensonge qui passe ce soir et lundi prochain, et ensuite. Dans la foulée, je pense à une série qu'on a terminé de tourner il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Les Aventures du jeune Voltaire. Pareil, c'est le même format, 4 fois 52 minutes, deux soirées pour France Télévisions, sur la jeunesse de Voltaire. C'est réalisé par Alain Tasma, Thomas Oliveres joue Voltaire, et dans ce beau projet-là, moi je serai le duc de Richelieu. Donc encore
une fiction encore en costume.
Un autre style, mais une fiction en costume. Qui a vraiment eu une grande ambition, et les quelques images que j'ai pu voir, je crois que c'est réussi, donc je suis aussi très fier de faire partie de cette fiction, et j'ai hâte qu'on puisse la montrer.
Eh bien écoute, quand ça sera diffusé, on prend le pari, on te réaccueille dans l'émission pour nous en parler.
Eh ben avec plaisir, je viendrai avec plaisir, merci, c'est gentil.
Bon, Victor, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc Le Mensonge, c'est ce soir à 21h05 sur France 2. On ne le rate pas, bien évidemment, et puis on te souhaite plein de belles choses. Et je te dis à bientôt, merci à toi.
À bientôt,
Et tout de suite la bande-annonce.
J'avais tout réussi dans ma vie. Mon mariage, ma carrière. Mais l'histoire était trop belle. Et comme après un bon repas, il a fallu que je paye l'addition.
Daniel Auteuil, pour la première fois dans une série. Le mensonge, inspiré d'une histoire vraie. Lundi soir sur France 2.
Et ce soir également, les agriculteurs de Amour et dans le Pré continuent à se déchaîner entre speed dating et début de séjour à la ferme. Karine de Marchand ne sait plus où donner de la tête. Extrait.
La semaine prochaine, nous suivrons de près les séjours d'autres agriculteurs et de leurs invités plongés dans un quotidien propice à plus d'élégante intimité.
En plus, t'as une cabine avancée, là.
Ah, ça, c'est pas une cabine avancée, c'est des pare-chocs.
Ils sont pas mal, quand même.
C'est des pare-chocs.
Je le dis, ils sont pas mal.
Merci.
Bon, tu pousses ou pas?
Bah, je pousse, là, du coup.
Allez, vas-y.
Comme ça, on voit plus mes pare-chocs.
Bon, maintenant, on s'en fout. Derrière, on voit le moteur.
Et j'aurai également la chance d'assister aux premières loges à de très belles rencontres lors des rendez-vous galants parisiens.
Je suis ému.
Oh, je suis mignon.
Pourquoi tu es ému comme ça?
Je sais pas.
Merci de votre fidélité et en attendant la semaine prochaine, bonne fin de soirée sur M6.
Allez, coup de cœur télé consacré cette semaine, eh bien, crime parfait avec un nouvel épisode inédit tourné en plus dans notre région en Nouvelle-Aquitaine avec Christophe Favre qui est avec nous, qui joint des guests dans ces épisodes que vous verrez demain soir sur France 3. Bonjour Christophe.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Alors évidemment, vous le connaissez aussi pour son rôle dans Un si grand soleil.
Gérald Soriano.
Gérald Soriano avec son fils qu'on aime tant.
Dylan
Soriano. Père et fils, c'est ça passe tellement bien tous les deux.
Ouais.
C'est assez incroyable, mais entre toi et Ijvan Nekrasov qui joue le rôle eh bien de Dylan, franchement c'est une évidence.
Ah, c'est une très très belle aventure. Ça fait maintenant 2 ans qu'on tourne ensemble. C'est rare d'ailleurs d'avoir un partenaire aussi longtemps. Et on a eu un très très beau cadeau. On a eu de très belles séquences, une belle histoire. Au départ, j'étais venu pour faire un guest, donc j'étais pas censé rester. Et la production me l'a proposé, j'en suis vraiment très heureux puisque on a vécu et on vit encore une belle aventure puisque là j'attaque bientôt la 3e saison.
Et oui, on va te voir dans la 3e saison, bien évidemment, encore d'Un si grand soleil. Pour l'instant, évidemment, crime parfait. Mmh. Puisque toi qui es Charentais-Maritime d'origine du côté de Royan, là t'es venu tourner sur tes terres quasiment à La Rochelle. Ouais. C'est rare pour un comédien d'arriver à tourner sur ses terres.
Ah oui, complètement. Et La Rochelle, d'ailleurs, c'est même là où j'ai fait mon lycée aussi.
En plus. Alors ce crime parfait, raconte-nous. Alors le principe, hein, pour ceux qui connaissent pas quand même, on va le dire, c'est qu'on connaît l'identité de l'assassin dès le départ, dès le début, et on va remonter un peu à la Colombo, et bien tout le long de l'enquête pour arriver à comprendre ce qui a pu mener effectivement au meurtre. Alors toi, dans ce guest, tu joues quel rôle? Dis-nous.
Alors, il va pas falloir que... faut quand même garder le suspense, mais je ne suis pas le meurtrier.
Bon, bah déjà, non. Voilà, donc on ne verra pas forcément
non,
dès le début.
Oui, voilà, on verra pas au début, donc de toute façon, là, c'est pas... Mais en revanche, je suis un personnage que l'on voit tout le temps, tout le long, donc, de
l'épisode, dénouement de cette enquête.
Puisque je vais, bien malgré moi, donner des mauvaises pistes. Voilà, c'est un marieur. C'était très intéressant de jouer ce personnage, puisque c'est, une fois de plus, une composition. Donc on m'a fait confiance sur ce personnage, c'est Nicolas Aird, le réalisateur, et ça a été une très belle rencontre. Julie Ferrier, avec qui je tournais pour la 3e fois, et puis toute l'équipe qui est autour de nous, qui était formidable, tous les artistes, Wendy Yeto, Christelle Rebou, Larbel Deutsch, Jérôme Robard.
Oui, t'étais bien entouré, quoi.
Ah, très très bien entouré. Ouais. Et une production formidable. Et puis France Télé aussi, France Télé avec qui je tourne beaucoup.
Ben oui, évidemment, ouais. Depuis Un si grand soleil, ça a ouvert des portes parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas arrêté de te voir au cinéma, alors dans des petits rôles pour l'instant, mais on te voit très très souvent dans des films au cinéma aussi.
Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, j'ai cette chance de tourner aussi bien au cinéma que pour la télévision et de tourner des choses totalement différentes. Donc, ça peut être du long métrage, gros blockbuster ou des longs métrages indépendants. Et puis à la télévision, je fais aussi bien des séries que des téléfilms. Donc, c'est une chance. C'est une chance de faire beaucoup de choses.
Quel est ton rôle de rêve, Christophe? Le rôle ultime que tu aimerais, que tu n'as pas encore incarné.
Il y a une chose que j'ai toujours aimée, c'est tous ces rôles d'avocat avec beaucoup de verbes, qui ont un peu le pouvoir, ou un juge, par exemple.
Ouais.
Ouais, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien.
Oui, mais bon, le juge est une femme à la télévision, tu sais bien.
C'est vrai, hein? C'est vrai. Mais ça peut changer, on peut leur donner envie. Hein,
Exactement, on pourrait faire une série, le juge est un homme.
Voilà, complètement, ou alors c'est son frère.
C'est ça.
Non, ce genre de rôle, ouais, ce genre de rôle me plaît beaucoup. Par exemple, dans La Mente, je me souviens la série La Mente
avec Carole Bouquet.
J'incarnais un psychopathe et je me suis amusé à composer ce personnage et qui était dans une douceur tout en étant extrêmement dangereux. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît, tout ce qui est ambivalent, tout ce qui est ambiguïté me plaît énormément.
Mais c'est un peu ça en fait, hein, le rôle de Gérald Soriano. On ne sait jamais si les vaches, s'il est un peu méchant ou s'il nous remplit d'émotions dans sa relation avec son fils, finalement. Après, je te dirais franchement, au fil de la saison 2 et des épisodes qu'on a pu voir et des dernières intrigues qu'on a pu voir avec ce duo, on a l'impression quand même que c'est quelqu'un d'hyper attachant.
Il déborde tellement d'amour qu'il a du mal à le dire. Il a cette pudeur. Il lui est arrivé quelque chose. Il a une fêlure. Il a une fêlure et son fils, il veut tellement l'aimer, il veut tellement lui donner des règles de vie qu'il en est maladroit parfois. Voilà. Et les choses de la vie le ramènent à quelque chose de plus sage. Et puis aussi parce que la vie le ramène à la réalité, quoi, aussi, hein, tout simplement. J'aime beaucoup ce personnage, ouais. Il me touche beaucoup. Ouais.
On va lui faire trouver l'amour un jour, quand même, à Gérald Soriano.
Très bien, je devrais dévoiler ce qui va se passer.
Ah, y aurait-il Anguille sous roche pour les futurs épisodes? On ne sait pas.
Je ne sais pas. Ah. Je laisse la production nous faire ces belles surprises. Bon. Mais ça se pourrait tout à fait, puisque pour l'instant, la famille Soriano, c'est mon fils et moi.
Exactement. Donc je suis sûr qu'on va peut-être découvrir d'autres choses autour de la famille, parce qu'une saison 3 est signée, on le sait, évidemment, pour un si grand soleil, et tu vas en faire partie. Voilà, on espère en tout cas que tout va bien se passer du côté de Montpellier. Pour revenir sur ce crime parfait, dis-moi quel était l'endroit où t'as tourné les scènes qui t'ont le plus marqué, là, du côté de La Rochelle, là, pour le coup?
Eh bien, dans les frigos.
Oui, t'as tourné une scène dans un frigo, carrément.
Alors oui, mais attention, quand je dis les frigos, c'est un peu péjoratif, dans le sens où c'est en fait toute cette partie du nord de La Rochelle qui sert de frigo géant, en fait, à tous les pêcheurs qui viennent donc déposer leurs poissons,
à crier.
Les crustacés, à la criée, voilà. Et alors cet endroit-là était vraiment exceptionnel. On a travaillé en plus avec les gens qui y travaillent. Ils étaient formidables, ils ont fait la figuration avec nous. Ils m'ont appris les gestes du métier. La façon dont on parle, tout de suite quand je suis arrivé, je leur dis voilà les gars, vous me dites tout de suite comment vous parlez, comment vous déplacez, quels sont vos gestes.
Donc tu peux vendre du poisson maintenant.
Je peux vendre du poisson, je peux. J'avais tout fait, trier les poissons, trier les moules, tout. Ils ont été exceptionnels. Alors ça m'a beaucoup marqué, cet endroit, parce que les gens étaient formidables, les gens qui nous ont accompagnés, les locaux.
Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Christophe? Pour la suite, que tout ça continue bien, il y a des beaux projets qui arrivent encore.
Ah oui. C'est en fait, je suis arrivé tard dans le métier. C'était mon rêve d'enfant d'être acteur, et là on m'ouvre la porte et on me met en lumière. Alors maintenant je me dis que le meilleur reste à venir, voilà. Et d'ailleurs ma devise souvent c'est que grand bien nous fasse, et bien plus encore.
Et je crois que tu vas avoir un film, alors, italien, mais tourné en France par un réalisateur italien, et t'es le seul acteur français qui va sortir au printemps.
Alors,
c'est ça ou pas?
Alors, c'est presque ça.
Alors, remets dans l'ordre.
Alors, c'est un film français tourné en Italie.
Voilà, donc
par
c'est
un
tout
réalisateur italien et une production italienne. Voilà.
J'adore.
Et c'est un huis clos. C'est un huis clos, c'est sur l'abus de pouvoir et l'abus fait sur les femmes. Hein, donc, c'est quelque chose quand même qui est très d'actualité.
C'est un sujet de société, oui.
Voilà. C'est un huis clos un peu comme le film de Claude Miller, Garde à vue. Mm-hmm. Donc là, où je suis un commissaire et j'invite une femme à venir me rejoindre dans mon commissariat. Voilà. Donc, et il y a un troisième acteur qui est là aussi, qui lui est un policier. Donc, nous sommes tous les trois dans ce film. J'y ai le rôle principal, effectivement, la tournée là en février.
Tout tourné en langue française.
Et le tout tourné en langue française. Ouais, tous les acteurs parlent français.
Bon, bah écoute, on espère que tu viendras nous faire découvrir ce film au moment de sa sortie. Tu le sais, t'es le bienvenu dans notre émission.
Voilà, je vais quand même dire le nom de mes partenaires, puisque c'était Claudia Gerini,
ouais,
qui est une très grande actrice italienne et qui tourne à l'international, et Pasquale. Voilà.
Bah voilà. C'est fait.
Voilà.
Impeccable. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. En tout cas, on te retrouve demain dans Crime Parfait pour un nouvel épisode inédit dans le rôle d'un marieur à La Rochelle. Et puis on te retrouve évidemment bien régulièrement dans Un Si Grand Soleil. Ça c'est du lundi au vendredi à 20h40 sur France 2. Merci à toi et à très bientôt Christophe.
Merci à toi Alain.
La semaine dernière, au cours d'un cambriolage à main armée, Sylvain Damal a, au péril de sa vie, sauver celle des Legrand ainsi que celle de leur petite fille de 2 ans. C'est avec une vive émotion que je vous remets, cher Sylvain, la médaille de la ville pour cet acte de bravoure.
Ma paralysie n'est que temporaire. Elle devrait commencer à s'estomper d'ici 1 heure environ.
C'est l'heure de ton procès. Tu vas payer pour ce que tu as fait.
À l'issue de cette heure, tu seras libéré. Et nous aussi.
Le jury a délibéré et voté à l'unanimité.
On déclare Sylvain Damal coupable.
sans aucune circonstance atténuante.
Et mercredi, ça sera la suite de la saison 9 du meilleur pâtissier sur M6. Et là, on va faire chauffer les fourneaux pour nos 13 pâtissiers encore en lice sur le thème de Blanche-Neige cette semaine.
La semaine prochaine, le meilleur pâtissier vous emmène au royaume de Blanche-Neige.
Là, je me prends un petit peu comme un petit nain qui prépare sa potion magique.
Nos 13 nains gourmands devront mettre à l'honneur le fruit emblématique de ce conte de fées.
Je vais essayer d'ensorceler Suivi les Mercottes avec cette pomme.
Et confectionner un miroitant gâteau pour la reine Mercotte.
Ça me fait peur, ça.
C'est quoi ce bordel?
Non, bordel, ça m'énerve.
Lequel de nos 13 nains sera le plus grand des pâtissiers et obtiendra le tablier bleu?
Oh, il m'a stressé le bulbe, hein.
Et c'est la suite de Infidèle jeudi prochain, et bien sur TF1 épisode 3 et 4. Et d'ailleurs, on recevra Tom Leb hein, pour nous en parler lundi prochain pour le grand final. Persuadé que Gabriel lui dissimule des choses et ayant des doutes hein, sur ses intentions, Emma entreprend de se venger en se laissant séduire par Valentin. Voici tout de suite un petit extrait en avant-première.
Je voulais m'excuser pour l'autre soir. J'ai eu de la visite et c'était pas prévu.
C'était qui?
Sans importance. Puis je croyais qu'on n'était pas censé se raconter nos vies.
T'as raison, chacun fait ce qu'il veut.
T'as vu la quatrième de couverture? C'est le genre d'histoire que t'aimes pourtant.
Ah mais j'ai plus trop le temps de lire. D'ailleurs, je viendrai plus à la bibliothèque. Je voulais juste te prévenir.
Pourquoi? Y'a un problème?
Je veux juste me consacrer à mes études, c'est tout.
C'est tout? T'es bien un mec, toi. Incapable de faire deux choses à la fois.
T'as déjà lu Stevenson?
Évidemment.
Eh ben, je crois que tu devrais vraiment le relire, alors.
Et sache que je relis jamais deux fois le même livre. Par contre, toi, tu l'as pas terminé. T'es pas curieux de savoir où se cache le trésor? Non, sans déconner, c'est ton stock, c'est à toi de l'écouler, ok? Quand t'auras fini, tu feras ce que tu veux, mais là, c'est comme ça que ça se passe.
Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police?
Tu veux vraiment jouer à ça?
Et jeudi, sur Arte, on pourra voir la suite et la fin de la série Kidnapping, la série franco-danoise avec Charlotte Rampling au casting. Un final à ne pas manquer avec les épisodes 5 à 8. Voici la bande-annonce.
Le numéro 49, ouais. Je l'ai appelée Ursula. Je me sens toujours un peu triste lorsque le jour arrive.
C'est quoi ça?
C'est des dates de naissance.
Ces documents sont anciens. Il s'agit de nos vieux registres annuels.
On a réussi à identifier le propriétaire du véhicule qu'on voit sur la vidéo de la station-service.
Oliver Lassen, 28 ans, de Brandbu. On va chez lui.
Hey! Ursula, le 7 septembre. Ça doit être elle.
Ta fille?
Non, la fille de la jeune polonaise qui a accusé Mandorla d'avoir volé son bébé.
C'est pas écrit Bliss, là?
Le paiement dû à Bliss sera pris en charge par les trois cigognes.
C'est une clinique privée spécialisée dans la procréation assistée à Paris.
C'est sûrement elle qui a entraîné sa sœur dans ce trafic d'enfants.
Et dans un instant, dans Chut, on écoute la télé, Myriam Garbi, François-David Cardonnel et Tiffen Davio seront nos invités. Ça sera notre coup de cœur du vendredi pour le téléfilm De l'autre côté. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et de retour dans Chut, on écoute la télé pour la dernière partie de l'émission consacrée au téléfilm De l'autre côté qui sera diffusé vendredi sur France 2. On reçoit l'équipe justement aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, à commencer par Myriam Garbi. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Nous avons également une des héroïnes de ce film aux côtés d'Alix Poisson. C'est Tiffen Davio qui est une des habituées de notre émission. Bonjour Tiffen.
Et bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis François-David Cardonnel que vous avez certainement adoré en aventurier amoureux transi dans le bazar de la charité aux côtés de Dré. Floro, c'est François-David Cardonnel qui est avec nous. Bonjour à toi.
Bonjour.
Si d'être avec nous. T'as vu, hein, je t'ai bien vendu hein, quand même. Hein. Tu as vu?
Merci beaucoup, tu es adorable.
Bon, une belle aventure hein, ce bazar de la charité. Mais on va en parler un petit peu aussi. Mais pour l'instant, on va se baser sur De l'autre côté. Je vais m'adresser d'abord pour commencer à toi, Myriam. Première chose que j'ai envie de te dire, qui a eu l'idée de ce scénario, de cette histoire hein, en quelques mots?
Alors ce sont en fait des scénaristes tout simplement, donc on a deux scénaristes, donc Léa Clavel et Philippe Duchesne, et l'un d'entre eux est simplement originaire de la région de Morteau, donc il a écrit sur sa région qu'il ne voyait pas du tout à l'écran, pas assez représentée, et sur un domaine dont on ne parle pas non plus énormément, qui est déjà l'apprentissage pour les jeunes et l'horlogerie. Donc il avait envie de faire un polar dans cette ambiance-là, avec des héroïnes un petit peu décalées, qui ne soient pas uniquement, pas que des flics, en gros. Il avait envie de construire un personnage autour de bah, voilà, l'héroïne Alix Poisson, avec un duo un duo un petit peu détonnant. Je laisserai Tiffaine en parler.
Exactement, ce duo entre cette CPE et cette flic incarnée par Tiffaine. Une flic très rentre-dedans, un peu garçon manqué, qu'on retrouve dans ce film.
Oui.
N'est-ce pas ? Je l'ai bien vendu là aussi ?
Ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, enfin, elle a du caractère, elle a du répondant, quoi. Elle est là, quoi. Ouais, elle a de l'énergie.
Ah oui, elle a de l'énergie à revendre, je te confirme. Ben justement, comment tu la définirais, toi, Alice ? Parce que moi, je l'ai définie comme ça, c'est la façon dont elle aperçoit. Mais toi, comment tu l'as perçue à la première lecture du scénario ?
Bon, moi, je dirais pas forcément garçon manqué, parce que j'aime pas ce terme, en fait. Et puis, c'est pas parce que c'est une gendarme et tout, que voilà, que c'est un mec. Non, je pense que c'est plutôt une gonzesse qui aime vraiment son taf et qui le défend. Et. Bon, là concrètement, elle le défend encore plus parce qu'il y a un autre centre d'intérêt, je ne déflorerai pas l'histoire, mais qui fait que ça la motive excessivement. On va dire ça comme ça. Et donc elle a deux passions qui vont se conjuguer, qui vont faire que voilà, ça va un peu la bouleverser quoi.
On va découvrir effectivement qu'une jeune apprentie d'école d'horlogerie a chuté d'une falaise, mais est-ce un accident, est-ce un suicide, est-ce un meurtre ? C'est ce qu'on va découvrir effectivement au fur et à mesure de cette histoire. François David, toi ton rôle ? Dans ce film, raconte-nous.
Alors, moi, je suis justement le frère d'Alice, le frère de Tiffaine. D'ailleurs, on est tous les deux blonds aux yeux bleus, ça marche super. Non, t'as pas les yeux bleus, putain. Mais blond, ça marche bien. Et voilà, mon personnage est un professeur de sport qui est un ancien champion olympique. Et il va être mêlé aussi à ces histoires-là, de par sa sœur également. Et puis, je peux pas dire grand-chose, en fait. C'est ça qui est...
C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui vous a plu en premier dans cette histoire, toi, Tiffaine ? Qu'est-ce qui t'a séduit en premier lieu ?
Moi, j'aimais bien ce dont parlait Myriam tout à l'heure, ouais. À savoir que pour une fois, c'était pas juste une gendarme et une CPE, voilà, classique. J'aimais bien l'intrigue qu'il y avait autour de leur relation. Je trouvais ça hyper intéressant. J'aimais bien la dynamique des deux personnages. Je trouvais qu'il y avait quelque chose. En plus, quand j'ai su, j'avoue que c'était Alix Boisson, j'étais un peu très très contente de ça et très excitée par ça. Et d'ailleurs, je me permets de dire que c'est vraiment une super partenaire. C'est vraiment une nana top dans la vie, en plus dans le boulot, elle est géniale. Et du coup, voilà, j'aimais bien le côté, c'est pas Laurel et Hardy, mais voilà, il y a un petit truc comme ça qui fait que ça fonctionne bien et qui fait avancer l'histoire. Ouais, ça m'a vraiment plu.
Alors de l'autre côté, pourquoi le titre, Myriam ? Parce que, évidemment, l'enquête et tout ce qui va s'en suivre va nous emmener de l'autre côté de la frontière.
Oui, et puis ce fantasme des jeunes apprentis, encore une fois, qui est de franchir la frontière pour travailler en Suisse, avoir une vie souvent meilleure, puisqu'on forme d'excellents horlogers qui travaillent le plus souvent dans les entreprises suisses, ou françaises pour certaines. Et on a un héros qui est joué donc par Thomas Doré, qui lui vit comme un fils voilà, de paysan, d'exploitant agricole, qui a cette double casquette de vouloir reprendre la ferme ou bien faire complètement autre chose. Et pour nous, c'est un vrai rêve qu'on met à l'écran. C'est une réalité aussi hein, de certains jeunes qui se battent pour avoir les meilleures places et passer de l'autre côté. Donc après, c'est de l'autre côté géographique ou passer de l'autre côté, changer de vie. Voilà, c'est vraiment un thème qu'on explore dans le film sur plusieurs niveaux.
Petite mention quand même aussi spéciale pour Luna Lou, puisque c'est la victime, mais à la fois c'est souvent on voit les victimes dès le début. Là, on la voit évoluer quand même un petit peu dans les premières 20 minutes du film, hein, donc on voit un petit peu son histoire se développer. Donc voilà, chapeau aussi à la comédienne qui joue le rôle de Manon dans ce film. Le casting, Alix, Tiffaine, déjà pour jouer ce duo, qu'est-ce qui vous a séduit chez ces deux comédiennes, Myriam, au niveau production et réalisation ?
Alors je parle en mon nom et pour la production et je ne parle pas pour Didier Bivel, le réalisateur, qui lui aussi a totalement fondu sur ce duo. On aime bien le contraste déjà, à la base, déjà deux excellentes comédiennes, vraiment excellentes, très différentes, mais toutes les deux dans l'énergie. Et je pense qu'on le voit à l'écran, ça match très très bien entre elles, c'est très vif, il y a beaucoup de répondants. Et ce sont deux comédiennes très expressives, notamment Tiffaine. Si vous voyez le film, elle a le moindre regard, la moindre mimique. On lit un peu comme un livre ouvert sur elle et c'est génial puisqu'elle est vraiment dans ce rôle un peu de séduction envers l'héroïne jouée par Alix Poisson, envers Jeanne Keller. Donc pour nous, c'était assez évident et on est très contents d'avoir ce duo original à l'écran.
Complémentaire, c'est tout de suite le mot qui me vient moi à l'idée quand on voit ce duo, c'est la complémentarité.
Oui.
T'as vu?
Parce que deux casse-couilles un peu, enfin deux tempéraments, je pense un peu On était bien, on se reconnaissait bien là-dedans. C'est bien reconnu, je crois.
Il y a eu une scène particulière entre vous deux qui vous a fait tourner vraiment la rigolade, qui vous a fait rire, ou alors ambiance plutôt studieuse, comment ça s'est passé ?
Relativement studieux, je dirais, sur l'ensemble, parce que c'est pas toujours hyper drôle ce dont on parle aussi. Ouais, la scène, une des scènes d'ouverture, là, quand je me moque de son amant, ouais, je pense qu'on s'est bien marré toutes les deux, plus d'une fois, ouais.
Il y a de beaux souvenirs. Il y a eu pas mal de scènes de famille pour toi, François David, hein, dans le film. Des repas dans le jardin, je me souviens de choses comme ça.
Non, mais moi, ce que je trouvais qui était intéressant, et on s'est tout de suite entendu avec Tiffaine, c'est justement sur ce lien frère-sœur. Tout de suite, je trouvais. Alors que moi, on se connaissait pas, on s'est rencontrés sur le tournage, donc c'est toujours assez délicat quand on arrive sur un plateau. On se dit, ok, alors il faut très très vite qu'on ressente qu'on est frère et sœur, qu'il y a une complicité, il faut composer avec ça. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement, je trouve. On a réussi à trouver une complicité qui allait bien, certes, dans la scène, dans l'écriture. Mais voilà, j'étais très ravi de tourner avec Tiffaine.
Pour revenir un petit peu sur vos projets aussi, alors, toi, on t'a vu dans Le Bazar de la Charité, François David. Alors, ça a été une série incroyable qui nous a emmené très très loin, qui a captivé les spectateurs, plus de 8 millions chaque semaine avec les replays. Enfin, ça a été vraiment incroyable, cette aventure.
Ah oui, non, c'est une aventure assez exceptionnelle. Surtout, généralement, quand on fait des séries d'époque, c'est toujours plus facile, j'ai envie de dire, pour créer un personnage. L'habit fait vraiment le moine, en l'occurrence. Et retracer un fait historique, c'était très captivant de se replonger dans cette époque-là. Je trouvais que les enjeux étaient très très bons. En plus, il y avait vraiment un casting assez prestigieux. Moi, je me sentais un petit peu petit au départ. Ça s'est super bien placé avec Audrey Fleurot, qui était ma partenaire principale. Très grande expérience, avec en plus une diffusion sur Netflix pendant 4 ans. Et c'est très très drôle de recevoir sur Instagram des messages d'Italiens, d'Amérique du Sud, qui vous envoient vos scènes, mais avec le doublage de la langue. Donc on s'entend avec des voix comme ça, mais espagnol ou quoi. C'est la première fois que ça m'arrive et c'est très drôle. C'est très très drôle.
Des projets pour 2020 pour toi ?
Oui, là je vais bientôt tourner dans un téléfilm sur France 3 et j'ai été aussi approché pour une pièce de théâtre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pour toi, Tiffaine ?
Je fais une nouvelle saison, je vais réussir à faire cette phrase, une nouvelle saison d'En Famille actuellement. Et aussi, je vais tourner bientôt la deuxième saison d'HP sur OCS.
Ah, ça y est, on va retrouver le personnage.
Oui, je suis très, très contente de ça, très heureuse.
10 épisodes ?
10 épisodes de 26 minutes, ouais.
On va suivre ça, bien sûr. Tu sais que t'es la bienvenue quand tu veux pour en parler, bien évidemment.
Avec grand plaisir.
Bon, il me reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous les trois de l'autre côté sur France 2. Merci François David.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Tiffaine.
Merci beaucoup à toi.
Et merci beaucoup Myriam.
Bah, merci à vous.
Et tout de suite, un petit extrait.
Manon, ça va ? T'as réussi à dormir un peu ?
Je dormirai plus tard, j'ai la présentation de mon prototype aujourd'hui.
Faut que j'y aille. Tu commences pas à 8h ?
Si, mais j'aimerais arriver à l'heure aujourd'hui.
À l'heure ? Tu te prends déjà pour un Suisse ?
On présente nos prototypes de montres. Si ça marche, je pourrais retourner faire mon stage chez Chamard.
Ben c'est sûr que c'est plus prestigieux que foutre ses mains dans la bouse.
C'est pas ce que j'ai dit.
Quand t'iras bosser en Suisse, on pourra encore te parler. Ou on sentira trop la merde pour toi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi dans Chute, on écoute la télé, je peux vous dire qu'on va avoir du beau monde puisqu'on va consacrer la majeure partie de cette émission à la sortie du film 30 jours max, le nouveau film de Tarek Boudali qui sera notre invité exceptionnel. Il viendra pas seul puisqu'il sera accompagné de José Garcia, Julien Ruti et Vanessa Guide qui seront donc nos invités. Nous parlerons également de Infidèle, la série de TF1 avec le final qui sera en ligne de mire et ça sera Tom Leb qui viendra nous en parler, de nombreuses surprises et puis bien sûr une nouvelle émission hebdo inédite, c'est pour vous lundi prochain dans Chute on écoute la télé. Allez, n'oubliez pas que Chute on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec la quotidienne à 11h40 sur Bergerac 95. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple. Rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute on écoute la télé. Et vous pouvez télécharger dès maintenant notre application Chute on écoute la télé pour iPhone et Android. Je vous retrouve également lundi prochain à 19h pour la grande hebdo. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Bergerac 95. 95.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale Porte de la Dordogne à Cresse.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.